Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et on rappelle, dans le grand rendez-vous ce soir, nous parlerons du Mali après la mort du principal suspect dans l'attaque qui a touché le président de transition au Mali. Peut-on encore connaître toute la vérité sur cette affaire? Et avant d'ouvrir les débats dans un instant, je vous propose de parler du Tchad et ses relations avec l'Union africaine.
Dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Docteur Évariste Ngarlem Toldé, bonjour.
Bonjour.
Politologue et enseignant-chercheur à l'Université de N'Djamena au Tchad. Le Sénégalais Ibrahima Fall, désigné haut représentant de l'Union africaine au Tchad pour accompagner la transition, a été remplacé par le Congolais Basile Ikwebe. Les nouvelles autorités militaires tchadiennes avaient rejeté le choix du Sénégalais, accusant lui de ne les avoir pas consultés. Certains estiment que l'organisation continentale a cédé aux caprices de N'Djamena. Partagez-vous cette critique?
Absolument, absolument, parce que on ne sait pas trop ce que cachait le rejet donc de l'envoyé spécial du président de l'Union africaine, le Sénégalais. Le CMT a imposé son point de vue, car cela ne tienne. Mais toujours est-il que c'est toujours un envoyé spécial du président de l'Union africaine. Le titre et les charges de l'envoyé spécial ne changent pas.
C'est-à-dire les missions restent les mêmes.
Les missions restent les mêmes. Il vous souviendra que lorsque la mission de l'Union africaine s'achevait à N'Djamena, un rapport avait été déposé auprès de haute autorité de la République du Tchad. Et dans ce rapport, il était bien fait mention de la nomination d'un envoyé spécial du président de l'Union africaine dans les prochains jours. Et ce rapport a été déposé aux hautes autorités et on n'a pas compris pourquoi, au moment du dépôt de ce rapport, le CNT n'a pas réagi. Et curieusement, c'est à sa nomination qu'on dit qu'on n'a pas été consulté. Mais quand les gens se sont parlé les yeux dans les yeux, voilà, rien ne justifie le rejet de l'émissaire sénégalais. Ils étaient bien au courant, bien avant que la nomination n'ait eu lieu.
Est-ce que cela pourrait être dû aux rivalités supposées entre N'Djamena et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat?
C'est toujours possible, hein, c'est toujours possible. Il vous souviendra encore que les gens avaient affirmé ça et là, qu'il y aurait des problèmes au sein du clan, au sein de la famille, au lendemain du décès du maréchal Idriss Déby en ce qui concerne le processus même de la transition et les acteurs qui devaient le mener. Et effectivement, Moussa Faki n'était pas d'avis comme le souhaitaient ceux qui ont proposé la candidature de Mamadou Kaka à la présidence de la République.
Basile Ikwebe, imposé par N'Djamena, il a pris fonction dimanche. Aura-t-il les mains libres et la marge de manœuvre nécessaire pour faire respecter notamment le délai de la transition fixé à 18 mois?
Justement, vous savez, les nouvelles autorités du Tchad, notamment le Conseil militaire de transition, avaient préféré donc retarder l'échéance. Vous savez, en rejetant donc l'émissaire sénégalais, ils ont déjà les autorités. Donc, elles ont mis sur pied une commission de préparation du dialogue national. Or, dans les premières décisions de l'Union africaine, il fallait que le représentant soit à N'Djamena pour essayer donc de concilier les positions des uns et des autres. Les gens voyaient donc en cet envoyé spécial la qualité de facilitateur pour essayer de faire remettre la confiance entre les parties, les différentes parties. Mais voilà.
Donc pour vous, en rejetant la nomination du Sénégalais, cela a également permis à N'Djamena de gagner un peu de temps qui leur permettra de justifier le retard dans le respect du calendrier de la transition?
pas seulement de justifier le calendrier, mais c'est d'amener les Tchadiens à marche forcée vers le dialogue national, alors que les différentes divergences ne sont pas aplanies. Hein. Vous savez que la charte n'a pas été modifiée, vous savez que le choix du facilitateur consensuel n'a pas été fait, et puis on met sur pied un comité d'organisation pour un dialogue inclusif national. Ben, beaucoup, surtout l'opposition et la société civile, aimeraient que le facilitateur soit d'abord là et que le comité d'organisation soit mis sur pied.
Comment voyez-vous la mission de l'envoyé spécial de l'Union africaine?
Mais c'est d'abord pour le respect de la transition. C'était d'abord ça, ce qui était mentionné noir et blanc sur le rapport qui était parvenu aux hautes autorités de la République du Tchad, et puis de faire en sorte que les autorités de cette transition ne soient pas candidats effectivement aux prochaines élections.
Ce que la charte ne dit pas.
La commission peut. Ce que la charte ne le dit pas, effectivement. Ce que la charte ne le dit pas. Et beaucoup de gens voulaient que cette charte soit révisée et que ces deux principes soient respectés avant que la transition puisse s'engager, disons, le dialogue puisse s'engager. Or, tout cela, ça n'a pas été le cas et beaucoup de Tchadiens craignent fort que le processus soit biaisé d'entrée de jeu.
Vous pensez que sa mission sera ardue?
Oui, je confirme que ça va être très difficile pour lui de concilier en ce moment les positions. D'abord, beaucoup ne voulaient pas ce terme de dialogue national inclusif. Beaucoup voulaient plutôt une contrainte nationale souveraine. Beaucoup souhaitaient également que la charte soit revue, comme je vous l'ai dit, et que le facilitateur consensuel soit trouvé et qu'on ait un parrainage international pour certains. Tout l'envoyé spécial aurait vraiment du pain sur la planche et dès l'instant où la confiance n'est pas rétablie entre les différents partis au jour d'aujourd'hui, ce qui nous fait dire que sa mission serait vraiment ardue, comme vous le soulignez.
Docteur Évariste Garlem-Toldé, merci beaucoup.
Et c'est à moi de vous remercier.
Politologue et enseignant, chercheur à l'Université de N'Djamena, au Tchad.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 18h, bientôt 15 à Paris, 16h15 en temps universel et à Bamako. Et nous parlons ce soir du Mali. Selon les autorités, l'homme qui a tenté d'agresser mardi dernier le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est décédé. Une autopsie a été demandée. Ce dernier faisait l'objet d'une enquête pour fait de tentative d'assassinat et d'atteinte à la sûreté de l'État. Et cette enquête se poursuivra, assurent encore les officiels, d'autant plus, ajoute-t-il, que les premiers éléments de l'investigation révèlent, je cite, qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé, d'un élément isolé plutôt. Autrement dit, d'autres personnes seraient impliquées dans cette tentative d'agression du chef de la transition. Alors, après la mort du principal suspect, est-il encore possible de connaître toute la vérité dans cette affaire? L'attaque contre le colonel Goïta illustre-t-elle d'impossibles malaises au sommet de l'État malien? Nous en débattrons ce soir avec nos invités. Adama Diané, bonsoir.
Oui, bonsoir. C'est Monsieur Amadou Diané.
Monsieur Amadou Diané, bonsoir.
Oui, bonsoir, madame.
Vous êtes secrétaire général du mouvement Ensemble Unis pour un Mali nouveau émergent. Merci d'être avec nous. Nous avons également le plaisir d'accueillir Tiambel Gimbayara, directeur de publication de La Voix du Mali ici à Paris. Monsieur Gimbayara, bonsoir.
Bonsoir, merci de cette invitation.
Merci à vous d'être là. Et en ligne de Berne, en Suisse, docteur Djourou Koro Diallo. Bonsoir, docteur Diallo.
Bonsoir madame, merci pour l'invitation.
Merci à vous d'être là, enseignant-chercheur à l'Université de Berne et à l'Université des Lettres de Bamako. Et également avec nous, Amad So, magistrat juge de paix à compétences étendues de tout coteau, c'est dans la région de Kaï. Monsieur So, bonsoir.
Bonsoir madame, c'est
bien ça. Merci beaucoup d'être avec nous. Et je commence par vous d'ailleurs, monsieur Amadou So, vous êtes magistrat. Alors, vous avez sans doute lu le communiqué du gouvernement sur les circonstances de la mort du suspect. Il était malade, on l'a conduit dans deux hôpitaux, puis il est décédé. Comment avez-vous analysé, et d'ailleurs, est-ce que vous avez analysé le texte officiel informant l'opinion sur la mort de ce suspect?
Oui, bonsoir, cher auditeur.
Bon, dans la journée du 20 juillet 2021, lors de la fête de l'élévation de la fête des Tabaski, de la grande prière, un individu a tenté d'attenter à la vie du président de la transition, M. Assimi Goïta. Et après quelques instants, il a été appréhendé par les forces de l'ordre. Et le lendemain, le procureur du tribunal de grande instance de la commune de Diss de Bamako, dans un communiqué, a déclaré l'ouverture d'une enquête contre cet individu. Bon, au cours de l'enquête préliminaire hier sur la chaîne nationale, nous avons tous appris que
le RTM.
L'intéressé est décédé, oui, le RTM, que l'intéressé est décédé et qu'il a été admis à l'hôpital Point-G puis à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako. Donc, ça met fin quand même à l'action publique du point de vue juridique, du point de vue droit et du point de vue code pénal malien. Et la mort du suspect entraîne l'extinction de l'action publique.
D'accord. Ce n'est pas ce que dit le communiqué. En tout cas, mais avant de vous faire réagir sur ce que vous venez de dire concernant l'après-décès du principal suspect, vous, est-ce que cette version officielle vous a convaincu ou avez-vous des raisons de douter de ce qui a été dit?
Bon, depuis lors, quand il a été appréhendé, il y avait un communiqué qui annonçait que le suspect était drogué et qu'il ne s'était pas réveillé, d'où qu'on n'a pas pu l'identifier clairement. C'est pourquoi, en matière de droit, on va lui attribuer le nom X, parce qu'il n'a pas été... On ne peut pas lui donner un nom et un prénom. Tant qu'on ne parvient pas à l'identifier, à lui donner un nom et un prénom, donc on va l'appeler ainsi X. Donc, cinq jours après, cet individu étant décédé, c'est la communiqué du gouvernement. Bon, je crois qu'on ne peut pas commenter par rapport à ça. En tant que magistrat, je ne peux pas dire grand-chose sur ça.
D'accord. Et je vais peut-être vous faire réagir tout à l'heure sur ce que vous avez dit, que la mort du principal suspect entraîne l'extinction de l'affaire.
Oui.
Voilà. Mais je vais peut-être faire réagir d'autres personnes et puis on parlera de cela. Tiambel, comment avez-vous accueilli ce communiqué officiel du gouvernement et sur la mort du suspect?
Oui, c'est un communiqué diffusé sur les ondes de la télévision nationale du Mali, à la fin du journal parlé d'ailleurs, dont un communiqué qui faisait état de la mort de ce principal accusé au sein d'un hôpital à Bamako, sans spécifier ni le nom, ni les conditions dans lesquelles il a été évacué vers cet hôpital-là, ni l'identité de cette victime. Donc, ça jette encore plus, un peu plus de discrédit, ou encore ça soulève des interrogations, pour être politiquement correct, des interrogations par rapport à cette affaire dès le début. Parce qu'on ne connaît pas la personne, elle n'est pas identifiée. Et c'est une personne qui s'est ruée sur le président de la transition le jour de la fête de Tabaski, qui voulait attenter à sa vie avec un coup de la main, qui a été arrêté, battu certainement par la sécurité et les hommes, surtout les organisateurs au sein de cette mosquée, la grande mosquée de Bamako, qui a été évacuée par les forces de l'ordre, qui, selon les dires d'un certain correspondant d'une presse internationale à Bamako, qui a parlé du fait que le gars est sous l'effet de stupéfiants. Aucune déclaration officielle ne l'atteste. Donc on ne peut pas faire foi de cela pour relever cet état de fait.
Donc vous, en clair, il y a des doutes sur les conditions de décès de ce suspect?
Il y a des zones d'ombre quand même qui méritent d'être clarifiées. Par rapport à l'ouverture d'une enquête par la justice à Bamako, par rapport aux conditions d'interpellation, d'interrogation, où est-ce que ces conditions sont, est-ce que les droits de ce prisonnier étaient respectés ou de ce présumé coupable étaient respectés? Y avait-il un avocat? Y avait-il un commis d'office? Est-ce qu'il a été interrogé?
D'accord, on va écouter puisque le temps file très vite. Docteur Diallo, qui va d'ailleurs nous quitter dans une trentaine de minutes. Docteur Diallo, alors, oui. Parlant de l'incohérence, si le suspect, on n'a pas pu exploiter suffisamment d'informations sur le suspect, comment est-ce que les indices ont pu permettre aux officiels de savoir qu'il y a d'autres personnes qui étaient impliquées, puisque le communiqué officiel dit qu'il y a, que il ne s'agissait pas d'un élément isolé.
Ben justement, c'est ça là, toute la question, madame. Et excusez-moi si je rigole un peu, parce que c'est quand même une question assez sérieuse, parce qu'elle intéresse directement la survie de l'État malien, si on s'attaque de cette façon à la première institution du pays, de tout l'État, et que cette question soit quand même assez floue et qu'il n'y ait aucune clarté sur cette question, ça laisse quand même beaucoup de questions ouvertes. Et c'est que la question que je me pose quand même, c'est que, étant malien, nous nous posons quand même la question qui oserait attaquer les présidents de la transition du Mali le jour de la fête des Tabaski, comme on dit chez nous, et dans la grande mosquée de Bamako. Ça, c'est, il faut quand même à être culotté pour faire ça.
Et en plus, un militaire aussi.
Ben justement, c'est que cette histoire, il faut qu'on dise la vérité aux Maliens sur ce qui se passe. Parce que nous sentons qu'il y a une nouvelle tentative de... Voilà, il y aura des arrestations bientôt sur la base de ces... De cette agression sans aucune autre preuve, en tout cas que les aveux qu'aurait laissé le
suspect mort qui ne peut ni contredire il peut pas avoir de confrontation.
Mais madame, comme on dit, les morts n'ont jamais parlé, en tout cas peut-être des esprits, mais pas dans le système juridique moderne, ça n'existe pas. Alors, où est-ce qu'on va trouver des preuves pour dire que voilà, il a dit ça? En tout cas, en dehors de tout ça, moi, personnellement, je suis choqué quand même. En tant que citoyen malien, citoyen du monde, épris de paix et des valeurs de justice, je suis très choqué par cette histoire parce que ça démontre seulement tout le dilettantisme autour de l'appareil étatique malien. Comment est-ce qu'on peut s'attaquer au président de la République de cette façon? Ça a été trop simple quand même. Si vous voyez la vidéo, ça a été très, très simple.
Merci beaucoup, docteur Diallo. On va permettre, s'il vous plaît, à Amadou Diané de s'exprimer aussi avant qu'on observe la pause. Vous aussi, monsieur Diané, vous pensez qu'il y a quelques curiosités dans cette affaire, des zones d'ombre dont parlait Tiambel?
Bon, concernant les détails du succès, je crois j'ai capté qu'il peut faire des zones d'ombre là-dessus. Puisque le gouvernement, dans cette affaire, a tenu à faire les choses dans la transparence et la crédibilité en compétence sur l'état de santé du succès. Qui, d'ailleurs, même, je trouve que c'est sur les effets des produits toxiques qu'il avait consommés de façon peut-être excessive. Donc, l'État n'a aucun intérêt à mettre à la vie du succès en danger, pouvant créer des difficultés dans le processus des enquêtes. J'ai capté cette thèse de la responsabilité ou d'éléments nouveaux concernant la vie du succès. Parce que si on s'en tient compte au vidéo de l'arrestation, il a été arrêté sans brutalité. Donc, je croyais que peut-être je privilégie à plus de la consommation excessive des produits et autres stupéfiants du succès.
D'accord. On va quand même souligner, Monsieur Diané, que on faisait remarquer tout à l'heure que il n'y a pas d'information officielle concernant cet aspect, selon lequel le suspect était sous l'emprise de possibles stupéfiants.
Bon, vous savez, en fait, face à des affaires comme ça, je dois dire il faut faire extrêmement attention parce que on ne peut pas dévoiler aussi tout le contenu de l'enquête. Donc, si le gouvernement a affirmé qu'il était sous le fait de l'enquête, moi, je trouve que c'est peut-être normal et c'est peut-être une vérité. Il faut être assez fou pour s'en prendre, essayer de s'en prendre à un chef de l'État, surtout. En plein cœur de l'islam, je ne sais pas, du symbole de l'islam du Mali, un jour aussi pareil qui est l'enquête de la Tabaski.
Merci, donc, Monsieur Diané.
Il n'était pas avec des raisons.
D'accord, merci beaucoup. Et la ligne n'est pas très claire avec vous, Monsieur Diané. On espère qu'elle va s'améliorer pour que vous puissiez être bien entendu. On marque une courte pause, messieurs. Restez avec nous, à tout de suite.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et avec nos invités, nous parlons du Mali. Peut-on néanmoins établir toute la vérité sur les circonstances dans lesquelles l'attaque contre le président de transition malien a eu lieu? C'était mardi dernier à la grande mosquée de Bamako, jour de la fête de la Tabaski. Nous en parlons ce soir avec Amadou Magistra. Docteur Djuro Koro Diallo, enseignant-chercheur à l'Université de Berne en Suisse, Tiambel Gimbayara, directeur de publication de La Voix du Mali, et Amadou Diané, secrétaire général du mouvement Ensemble Unis pour un Mali nouveau émergent. Monsieur Sow, vous parliez tout à l'heure de l'extension du dossier après la mort du principal suspect, mais le communiqué officiel du gouvernement malien indique que l'enquête va se poursuivre. Parce que les premiers éléments de celle-ci révèlent, je cite, qu'il ne s'agit pas d'un élément isolé. Ce qui veut dire clairement qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans cette tentative d'agression du chef de la transition militaire.
Oui, écoutez, madame, ce sera très difficile que cette enquête puisse aboutir, étant donné que l'auteur principal étant décédé, il n'a pas pu parler, on n'a pas eu des déclarations. En ce sens, on n'est même pas parvenu à l'identifier, à lui donner un nom, un prénom, son ethnie, son domicile. Tu vois, des informations.
Mais on affirmait qu'il était enseignant.
N'est-ce pas?
Bah, c'est ce qu'ont indiqué des médias maliens.
Des médias maliens. Bon, là, je ne suis pas au courant. Là, je ne suis pas au courant. Tout ce que je sais, c'est un inconnu, c'est X. Et étant décédé, du point de vue juridique, quand même, c'est très, très difficile de continuer.
Mais dans ce cas, pourquoi le gouvernement dit que...
Le communiqué du gouvernement concerne uniquement l'autopsie. Mmh. Concerne la mort du suspect. Les circonstances ayant entraîné la mort du suspect. Est-ce que c'est sous l'effet de la drogue? Est-ce qu'il a été tabassé? Est-ce qu'on lui a injecté d'autres substances? L'autopsie nous va déterminer ça.
D'accord.
C'est ça, mais voilà, vous dites de communiquer de
d'accord.
L'autopsie.
Vous dites que l'autopsie va révéler les circonstances ou les qu'est-ce qui a tué le suspect, mais on ne pourra pas exploiter des informations données par ce suspect parce qu'il était sous l'emprise, comme le disent certaines sources, de la drogue, des stupéfiants.
Stupéfiants, oui, oui. C'est bien ça. C'est
mais
bien
pourquoi,
ça.
D'après vous, le communiqué du gouvernement...
Il n'a même pas été présenté au niveau d'un juge. Il n'a même pas été présenté. C'est tout juste au début de l'enquête préliminaire. Et il était encore entre les mains peut-être du service de renseignement ou de la sécurité d'État. Parce qu'il n'a pas été même confié à une unité d'enquête.
Mais sur quoi se fondent donc les autorités...
Il ne mérite pas de la justice.
Sur quoi se fondent dans les autorités pour dire que les premiers éléments indiquent que il y avait d'autres personnes qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être impliquées et qui ne s'agissaient pas d'un acte isolé,
ça,
d'un élément isolé. Il y aurait des complices.
De la sécurité d'État. Vous savez, le service de la sécurité d'État est dissocié du service de l'enquête même de la justice. C'est deux entités parallèlement distinctes. Donc, au niveau du niveau du service de la sécurité d'État, ils ont procéder peut-être à une première interrogation. Et jusqu'à présent, on nous a pas informé par rapport à ça. Donc ça relève le top secret du service de la sécurité d'État.
Est-ce que M. Sow,
commenter, c'est ça.
Oui, quand on vous écoute parler, on a l'impression qu'il s'agirait peut-être de manipulation, de dossiers fabriqués en quelque sorte.
Bon, manipulation de dossiers, quand même, c'est un communiqué du gouvernement. Bon, on ne peut pas être plus réaliste que les rats. Je ne sais pas si vous me suivez.
Oui, bien sûr.
Quand le communiqué du gouvernement affirme que le suspect est décédé, je crois qu'on ne peut plus rien. Cette affaire ne pourra pas bouger.
Mais si néanmoins il y avait d'autres personnes arrêtées demain, le docteur Diallo disait qu'il y aurait, qu'on pourrait arrêter d'autres personnes supposées impliquées dans cette affaire sur la base des déclarations du principal suspect. Pour vous, ce serait inconséquent, ce serait incohérent?
Voilà, c'est incohérent parce que ces personnes ne sont pas encore présentées devant un magistrat. Donc, s'il y a des personnes qui ont été arrêtées, c'est au niveau du service de la sécurité d'État.
Non, je dis, si plus tard on présente des personnes suspectées d'être impliquées dans cette attaque.
Comme complices, oui.
Oui, comme complices, vous estimeriez que ça n'a pas, que ce n'est pas cohérent?
Je ne pense pas que ce sera cohérent. Je ne pense pas. Étant donné que l'auteur principal étant décédé, et les complices, tous ceux qui on va retenir, ou bien tous ceux qu'on va obtenir de leur déclaration, il n'y aura pas confrontation en réalité.
Merci. Docteur,
cette affaire sera close. Oui.
Docteur Diallo, comment réagissez-vous à ce que vient de dire M. Sow? Et je voudrais également ajouter cet autre élément. Depuis l'attaque contre le colonel Goïta, il y a eu des leaders religieux, chrétiens, musulmans, des chefs traditionnels qui ont exprimé leur désaccord, qui ont condamné cette attaque. On a aussi entendu des leaders politiques et une délégation des religieux s'est même rendue à la présidence pour exprimer leur soutien au président Assimi Goïta. Comment analysez-vous tous ces faits?
Madame, le Mali est un pays en guerre. Hein. Nous sommes fatigués de la guerre. Et si dans cette situation, nous voyons que la première institution de l'État est complètement agressée directement, alors on est obligé de montrer un certain élan de solidarité nationale. C'est en fait ce qui se passe. Mais je pense que ça, c'est un fait. L'autre fait serait que justement, que les citoyens maliens sachent exactement ce qui s'est passé. Parce que l'État fonctionne avec les moyens que le peuple malien lui donne. Même les services de renseignement, ils ne peuvent pas fabriquer de l'argent. Ils utilisent les ressources que le peuple malien leur donne. Donc, ils sont obligés de faire de la lumière sur cette affaire. Ça ne peut pas être une simple question d'État ou des...
Mais le magistrat Sow vient de dire qu'après la mort du principal suspect, normalement, devrait être clos. Parce qu'il n'est pas possible de procéder à une confrontation ultérieurement.
Alors, le dossier serait clos s'il n'y aurait pas d'arrestation à Bamako dans les prochains jours, les prochaines semaines à venir. Voilà. Et ça veut dire que juridiquement, le dossier serait clos, mais dans les faits, il ne le serait pas. Parce qu'on a quand même un chèque en blanc maintenant. Le président Goïta et ses hommes et les services de renseignement maliens, ils ont un chèque en blanc pour agir. Voilà. Et sur la base d'un suspect qui est mort, sur la base des informations données par un suspect qui est mort, des informations qu'on ne peut pas vérifier. Alors, ils vont toujours dire que voilà, c'est les secrets d'État. Alors, sauf que le Mali reste quand même un État démocratique. Le secret d'État a sa valeur. Il fait foi, mais dans un État démocratique, on a besoin de savoir la réalité qui est transparente et que si les ressources des contribuables maliens sont utilisées, qu'on sache ce qu'on en fait.
Merci.
C'est ce qu'ils doivent comprendre. C'est ça la situation.
D'accord. Tiambel.
Excusez-moi, madame, c'est clair que nous sommes tous solidaires avec le président Goïta et tout le peuple malien. Mais cette solidarité aussi doit être accompagnée de transparence et de respect envers le peuple malien, parce que nous n'accepterons pas qu'on nous prenne pour des cons. Excusez-moi
l'expression. Merci. Tiambel Guimbayara, le docteur Diallo parlait de chèque en blanc. Quand on analyse les positions des uns et des autres, et notamment celle de M. Sow, on peut peut-être aussi penser que cette attaque était peut-être une mise en scène pour permettre ou pour donner le servir de prétexte aux responsables maliens de mener ou d'écarter des personnes gênantes éventuellement.
En tout cas, cela fait trembler l'établissement politique, surtout à l'horizon des nouvelles élections présidentielles, des élections tout court qui se profilent au Mali. Les établissements politique se pose la question de savoir qu'est-ce que qu'est-ce que cache l'arbre? Est-ce que c'est la forêt finalement? Est-ce que ce n'est pas une intrigue politique? Même si peu de gens ont franchi le pas, on se pose des questions et certains font un distinguo entre le volet judiciaire et le volet politique. D'où la complexité de ce communiqué-là qui avance sans citer de nom et qui conclut en disant que l'affaire va se poursuivre avec l'interpellation de d'autres personnes. Là également, c'est tout un questionnement qui jette un peu de doute et soulève beaucoup de lièvres à plusieurs inconnus. Comment une personne qui n'a jamais été entendu par la justice sous l'effet d'un stupéfiant, qui n'a jamais été interrogé, dont on ne connaît pas l'identité, qui n'a pas été identifié, et qui puisse donner des complices à un niveau, dans un cercle restreint.
Oui, après toutes ces interrogations, quelle est votre lecture? D'après vous, pourquoi donc, est-ce que c'est c'était une mise en scène?
C'est une affaire sérieuse. Je crois qu'on n'a pas le droit de jouer avec le Mali, l'image du pays, et surtout à un moment critique où l'avenir est très, très... Le Mali fait face à une crise multidimensionnelle depuis, et il faut se garder de jouer avec l'esprit de l'état d'âme des gens. Sur une radio privée, j'écoutais ce matin à Bamako, il disait que le chef des bandits est mort, le film est terminé, c'est le clap de la fin. Je crois qu'il ne faut pas lui donner raison. Il faut que les autorités situent la responsabilité. Pourquoi pas une enquête dans une enquête pour déterminer qu'est-ce qui s'est passé réellement de l'interpellation à l'admission à l'hôpital, qu'est-ce qui a été fait? Comment peut-on faire...
Tiens, Belle, s'il vous plaît, on veut faire évoluer le débat. On a déjà ces questions, ces zones d'ombre, vous en avez parlé dans votre première intervention. C'est maintenant, comment analyse-t-on ce qui suit, c'est-à-dire cette attaque? S'il y a des éléments troublants, il faut bien qu'on les analyse. Mais dites-nous, en quelques mots, comment appréciez-vous cette solidarité, ce concert de solidarité reçu des leaders religieux, politiques à l'endroit du colonel Assimi Goïta?
Nous sommes dans une récupération purement et pleinement politique. C'est cet aspect politique dont je disais. Que l'Église islamique, religieux, musulman, l'Église catholique, avec les familles fondatrices, se rendent au chevet du Mali et ils l'ont soutenu de tout le temps. C'est bien beau, mais que la vérité, la justice aussi soit connue et que les responsabilités soient situées et que cette personne sous X sorte sous X. Elle est née tantôt à Nyono, tantôt à Nyoro. Allez-y savoir, il faut qu'on chasse, il faut qu'il y ait des parents qui autorisent l'autopsie et qu'on avance vers
Merci.
Ça. En tout cas, l'opinion est divisée.
Merci. Monsieur Amadou Diané. Oui, allez-y s'il vous plaît sur votre réponse à ce que viennent de dire les uns et les autres qui semblent soutenir que peut-être l'attaque n'est pas tout à fait une réalité et qu'il pourrait peut-être s'agir d'un prétexte, d'une tentative pour les autorités de préparer des possibles arrestations des personnes gênantes.
Bon, je rejette toute hypothèse de mise en scène de la part de ceux qui pensent que c'est une mise en scène.
C'est une hypothèse, hypothèse. Personne n'a dit que c'était...
Je ne partage pas du tout cette hypothèse qui prétend que c'est une hypothèse pour faire une purge au sein de la classe politique ou de la société civile. Je pense que l'acte est bien réel. Parce que soit les personnes n'ont intérêt à remettre en cause, à éveiller des problèmes sociaux et confessionnels au Mali. Donc imaginez un peu ça si ça avait tourné au drame. Nous l'aurions imaginé où on allait en venir, les conséquences d'un tel drame. Surtout pour ne pas provoquer des problèmes sociaux et confessionnels au Mali. Donc je crois que ce n'est pas une mise en scène et qu'au-delà de l'acte, il faut mener des enquêtes pour punir les éventuels complices ou auteurs. Au-delà de la personnalité du colonel, c'est l'État même qui a été visé. Et que personne n'a intérêt à remettre en cause ou à tenir de l'insécurité ou de l'instabilité au Mali. Vu les difficultés qu'on vient de passer, surtout avec la maladie à cause des autres événements sociaux qui s'est produit au Mali. Donc, le Malien lambda a besoin de la stabilité pour avancer, pour sortir de cette transition et mettre le pays sur la bonne marche.
Mais le magistrat Sow disait que ce serait difficile de connaître la vérité si le principal suspect est mort.
Je crois que si. Je trouve que d'ailleurs, bon, comme les enquêtes préliminaires ont été effectuées, pour ceux qui disent n'a pas d'identité, je ne partage pas du tout. Quel qu'en soit quand même, il devrait avoir des pièces d'identité sur lui. L'individu, comme ils n'ont pas publié la photo, peut-être n'est pas porté préjudice à l'enquête, ou bien n'est pas faire fuir d'éventuels
complices. Merci beaucoup. Merci Amadou Diagne.
Je crois qu'ils ont gardé dans l'anonymat.
Merci, à tout de suite. On marque une pause obligatoire.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Suite et fin de votre émission, le grand rendez-vous ce soir, et nous parlons du Mali, où l'homme qui a tenté mardi dernier d'agresser le président de transition, Assimi Goïta, est mort. Quelle sera la suite de l'enquête? Nous en parlons ce soir avec nos invités, Amadou Sow, magistrat, Tiambel Guimbayara, directeur de publication de La Voix du Mali, Amadou Diané, secrétaire général du mouvement Ensemble Unis pour un Mali Nouveau Émergent, et le docteur Djourokoro Diallo, enseignant chercheur à l'université de Berne en Suisse, qui est parti et donc il devait donc nous quitter à 45, et c'est fait. Monsieur Amadou Sow, quel est l'état d'esprit dans les rangs de l'armée et au sommet de l'État malien?
Bon, depuis le jour de l'agression, et le président a fait un communiqué. Il a apparu sur la chaîne nationale ORTM, il a dit que c'était un acte isolé, et puis il a banalisé l'attentat contre sa personne. Donc je crois qu'au niveau du sommet de l'État, cette page devrait être tournée pour consacrer, il y a d'autres défis à relever. Je crois que le président, on lui souhaite un prompt rétablissement.
Quand vous dites que vous n'êtes pas sans tourner, alors que d'autres demandent la vérité, M. Sow, est-ce que cela ne peut pas laisser entendre que vous estimez que c'est un incident sur lequel il ne faut pas s'attarder? Vous ne minimisez pas un peu cet acte?
L'une qui a été victime, lui-même, il a banalisé les choses. Comme vous l'avez dit, il y a eu des religieux, il y a eu des organisations qui ont... qu'on partit chez lui pour souhaiter meilleure santé. Bon, lui-même, il était tout à fait confiant. C'est comme si rien ne s'est passé, quoi.
Tiambel, c'est votre avis? Il faut passer à autre chose?
Non, je crois que c'est une affaire sérieuse qui entame l'image de marque du pays, qui s'est déroulée dans des conditions particulières, qui est venue à un moment où le pays est en crise et où on a essayé d'attenter à la vie du président de la transition. Je crois qu'il faut tirer au clair. Il faut tirer au clair pour l'honneur du Mali, il faut tirer au clair pour la justice, il faut tirer au clair pour que cela ne se reproduise plus jamais dans ce pays-là, il faut tirer au clair pour qu'on passe à l'essentiel étant le développement du Mali, pour que le Mali sorte de cette situation.
Mais je repose la question de départ tout à l'heure à M. Sow. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande quelles sont les motivations du suspect principal, qui est donc mort. Et les questions restent, pourquoi a-t-il agi ainsi? Est-ce que la personne, le suspect peut avoir été, est-ce qu'il y a des liens avec l'armée? Est-ce qu'il y aurait des liens avec le sommet du pouvoir? Il y a beaucoup de questions qui restent. On peut se demander s'il y a vraiment cette sérénité apparente. Est-ce que la sérénité n'est pas apparente au niveau du sommet de l'État? Tiambel?
C'est à moi la question, ça fait.
Oui, allez-y.
J'espérais qu'on n'en est pas arrivé là, et que ce n'est pas ce problème qui se pose, sinon ça serait à rajouter à la confusion, si c'est des dissensions au sein de l'armée, carrément, ce n'est pas avec un couteau qu'on va régler ces problèmes-là, mais en tout cas, il y a un problème, et ce problème-là, il faut le situer pour tout le monde. Le Mali a plus que jamais besoin de la cohésion de son armée nationale, de la cohésion du peuple malien, mais sur la justice, la vérité, pour que à tous ensemble, nous sortions de cette situation. Il ne faut pas réveiller le lion, il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie, il ne faut pas en rajouter avec une problématique, mais il faut de la justice, il faut de l'équité pour nous, et parce que les droits de l'homme, il y a une commission nationale des droits de l'homme qui ne voit pas...
Oui, qui a d'ailleurs invité les autorités judiciaires à établir la vérité sur les commanditaires, auteurs et complices de cet acte, la CNDH.
nous sommes aussi signataires des chartes aux Nations Unies et ailleurs. Donc, le Mali n'est pas isolé du reste du monde. Nous avions soumis, nous sommes engagés sur des voies. Il faut respecter ces chartes-là auxquelles nous sommes soumis. Et donc, le droit de l'homme, c'est assez sacré. La vie humaine est tout simplement sacrée.
Il faut toute la vérité. Amadou Diané, pour vous aussi, il faut toute la vérité sur cette affaire.
Je crois qu'il ne faut pas mettre d'autres problèmes, il ne faut pas créer d'autres problèmes en disant qu'il y a un malaise au sein de l'armée. Je crois que l'air est à la
fin. Oui, on est en train de demander s'il y a eu cette tentative, c'est qu'il y a bien des raisons, donc on essaye de s'interroger.
C'est le résultat des enquêtes, nous édifierons là-dessus. Sinon, je crois que pratiquement la population, à sa majorité, ainsi que la société civile, et même les religieux, ont condamné pratiquement à quasi-unanimité cette tentative. Au-delà de ces condamnations, je crois que la justice devrait faire à bout son enquête pour punir et donner des sanctions exemplaires aux commanditaires ou à des potentiels complices. Je crois que le Mali en a vraiment besoin pour finir enfin avec cette transition. Ils mériteront leurs sanctions, les sanctions conformes à la loi en matière pénale.
Pour terminer, hein, c'est dans ce contexte alors qu'on cherche à établir la vérité sur cet incident que le shérif de Nioro, influent chef religieux, qui a évidemment condamné la tentative d'assassinat du président de transition, a demandé la prolongation de la transition et par l'armée. Est-ce que c'était le moment?
Oui.
Oui, allez-y, M. Sow, s'il vous plaît.
Oui, le shérif de Nioro étant un leader religieux très aimé au Mali, bon, il n'a donné que son point de vue. Je crois que son point de vue n'a rien à voir avec l'agression.
Il n'y a pas de lien avec cette agression?
Je ne pense pas qu'il y aura des liens. Depuis le début de la transition, je crois que le shérif de Nioro, lui, il est déjà du camp des militaires. Lui, depuis le début, il a opté pour une longue transition, au moins ce qu'on puisse aller à des élections et crédibles aux transparences. Je crois qu'il n'y a aucun lien entre sa déclaration et puis cette tentative d'attentat à la vie du président de la nation.
Mais est-ce que c'était le moment, Tiambel Guimbayara, au moment où il y a des questions sur cette attaque, de lancer cette sorte de pavé dans la mare, il demande de prolonger la transition. Est-ce que c'est peut-être aussi un ballon d'essai? Tiambel, vous m'entendez?
Oui, moi je vous entends.
Oui, allez-y s'il vous plaît.
Le shérif s'est fait remarquer par ses prises de position assez courageuses. Il défend bec et ongle ce en quoi il croit. Maintenant, la prolongation de la transition ne peut pas être l'idée d'une personne. C'est l'ensemble des autorités et l'ensemble du peuple malien qui doit le valider. Encore qu'on a pris encore un engagement devant la communauté internationale, faudrait-il respecter cet engagement ou montrer la nécessité de bouger l'aiguille d'un tout petit peu avec l'accord de tout le monde? Et une seule personne, une seule partie ne pourrait engager le Mali sur cette voie.
Merci beaucoup, Tiambel Guimbayara, directeur de publication de La Voix du Mali. Merci à vous, Amadou Diané, secrétaire général du mouvement Ensemble Unis pour un Mali nouveau émergent. Merci au docteur Djuro Koro Diallo, enseignant-chercheur à l'Université de Berne en Suisse et à l'Université des Lettres de Bamako au Mali. Et enfin, à Amad Sow, magistrat, juge de paix à compétences étendues de Toukoto. C'est dans la région de Kaï, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Kita. Merci à vous de nous avoir suivis. Rediffusion d'émission ce soir à 23h, heure de Paris. Bonsoir, à demain.